Je remercie le Seigneur aussi parce que donc on a trouvé quelqu'un pour accompagner Philippe Pluchon à Somain. C'est Mike qui s'est porté volontaire. Donc vous verrez tous les deux avec ma voiture. Vous irez dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Alors j'aimerais commencer une série puisque c'est moi qui vais prêcher au mois de novembre, le mercredi soir, sur les lettres de Christ aux sept églises dans l'Apocalypse. Donc si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir le dernier livre de la Bible. Apocalypse, ça veut dire la révélation de Jésus-Christ. Et au chapitre 2, il y a sept lettres à sept églises de la part du Seigneur Jésus. Mais on va lire un peu le contexte. Et avec le chapitre 1, verset 12, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean. Il a une vision de Christ ressuscité. Je me retournais, Apocalypse 1, 12, pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe, il avait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Si vous ne connaissez pas l'Apocalypse de Jean, c'est un peu troublant parce qu'il y a beaucoup d'images, de symboles. Et notamment les chandeliers, par exemple. Qu'est-ce que c'est les chandeliers? Bon, ben, c'était les lampes, hein, ça servait à éclairer. Et quelle est cette vision? Bien sûr, même si le nom de Jésus n'y est pas, c'est Jésus qu'il voit là. Hein. Cet être qui ressemble à un fils de l'homme, mais qui est d'une luminosité, d'une brillance, d'une gloire extraordinaire, d'une puissance telle qu'il tombe évanoui, hein, comme mort, c'est-à-dire qu'il tombe inconscient. Et Jésus le touche. Et ce n'est pas juste un rêve qu'il a, hein. Puisqu'il est touché là. Jésus le touche de sa main et lui dit: Ne crains pas, j'ai des choses pour toi, il faut que tu écrives, parce que j'ai un message à transmettre. C'est quelle différence entre le Jésus de l'Apocalypse et le Jésus des Évangiles? Le Jésus des Évangiles, comme dit le prophète Ésaïe, n'avait rien pour nous plaire ou pour attirer nos regards. C'était un homme, même on l'a méprisé, on lui a craché dessus, on a voulu le tuer, on l'a tué finalement. Et là, vous avez cet être glorieux. En fait, on voit une fois dans les évangiles cet être glorieux. À quel moment? Lors de la fameuse transfiguration, lorsque Jésus prend avec lui ses disciples hein, sur la montagne, et là, il voit cette gloire qu'il avait en fait auparavant auprès du Père, mais qu'il a cachée. Si on peut dire, hein, qu'il a voilé, parce que cette gloire, qu'est-ce qui se passe quand on la voit? On tombe évanoui, c'est-à-dire c'est tellement saint, c'est tellement puissant qu'un homme ne peut pas tenir devant la gloire de Dieu. Moïse, hein, a dit à Dieu: Montre-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit: Cache-toi dans un rocher, sinon tu vas mourir. Et il s'est caché et il a vu cette luminosité, encore une fois, cette gloire de Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui rayonne un Dieu de sainteté, de justice. Mais là, ce que nous allons voir ensemble dans les semaines qui viennent, c'est justement ce que Christ va dire aux églises. Il y a sept églises qui vont recevoir une lettre elles sont toutes dans la même région, dans ce qu'on appelait l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. La première, c'est Éphèse, donc c'est une ville qui existe encore. C'était même une sorte de grande capitale, de grande métropole, avec en son centre le temple dédié à Artémis, la Diane des Éphésiens. Ça attirait, c'était un peu la lourde de l'époque. Il y avait des centaines de milliers de gens qui allaient au temple de Diane, à Éphèse, pour être béni, pour trouver une bénédiction. Et même, il y avait des orfèvres qui fabriquaient des petites statues de Diane qu'on achetait, comme à Lourdes. Vous pouvez acheter l'eau bénite, vous pouvez acheter les statues de la Vierge. C'est la même chose qui continue, sauf que ça, c'était le paganisme. Et cette capitale, eh bien, a d'autres villes autour. Mais pourquoi cette église? Le chiffre 7 revient trop souvent dans l'Apocalypse pour être un hasard. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu, d'abord, qui représente Dieu. C'est aussi pourquoi Dieu? Parce que c'est le chiffre de la plénitude. 7, ça veut dire que c'est complet, c'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever, tout est là. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin de l'Apocalypse, que personne ne retranche ou n'ajoute quoi que ce soit, parce que c'est 7, c'est la perfection. 6, c'est juste en dessous, c'est l'homme imparfait, l'homme pécheur. Et le 666 de l'Antéchrist, c'est l'imperfection totale, c'est le raté total, c'est l'Antéchrist, c'est Satan qui est le minable, qui est le perdant. Bien qu'il essaye de gagner toujours, il est toujours perdant, il est toujours en dessous de Dieu, mais il cherche à imiter Dieu avec une trinité. 666, c'est une trinité. Mais bien sûr, il sera jugé et condamné. C'est dans l'Apocalypse qu'on voit qu'il est jeté le premier dans l'étang ardent de feu et de soufre. Mais il y avait d'autres églises en Asie mineure. Il y avait par exemple l'église de Colosse, qui est mentionnée dans le Nouveau Testament. Pourquoi ces sept-là? En fait, ces sept-là, parce qu'elles ont chacune une personnalité particulière. Et avec ces sept églises, en fait, Christ s'adresse à toutes les églises, à la plénitude des églises. Et notre Église va pouvoir bénéficier de ces lettres aussi encore aujourd'hui, parce que Christ veut nous parler aujourd'hui. Mais il y a aussi des théologiens et même un historien de l'Église qui s'appelle Philippe Schaff, qui voit dans ces sept églises les sept périodes de l'histoire de l'Église. Philippe Schaff a écrit un grand classique sur l'histoire de l'Église depuis les apôtres jusqu'à la Réforme, sept volumes. Un pavé, c'est vraiment, un grand, grand historien de l'Église. Et lui, il a dit, moi je vois sept périodes. L'Église d'Éphèse, la première, c'est l'Église des apôtres, l'Église du premier amour, l'Église du début, mais qui perd son premier amour. L'Église de Smyrne, ensuite, c'est l'Église persécutée, parce qu'effectivement, dans l'histoire, très vite, la persécution par les Romains est venue. L'Église de Pergame, c'est l'Église d'État, et qui déjà commence à être l'Église romaine catholique, qui s'allie avec l'État et qui commence déjà à se corrompre. L'Église de Thyatire, alors là c'est l'Église papale, à son apogée à la fin du Moyen-Âge, où le pape est au-dessus des rois, le pape devient Dieu sur terre. L'Église de Sardes, c'est l'Église de la Réforme, qui essaie justement de changer cette corruption, de ramener la foi biblique. L'avant-dernière, l'église de Philadelphie, Philadelphie ça veut dire l'amour fraternel, c'est l'église des missions, c'est l'église du 18e, 19e, même 17e, où les chrétiens se remettent à annoncer l'évangile dans le monde entier. Et puis la dernière, l'Odyssée, qui est la plus connue souvent, c'est l'église de la fin des temps, l'église tiède, l'église apostate, qui est riche, qui se croit riche, mais qui ne sait pas qu'elle est pauvre. Donc, c'est un point de vue très intéressant de voir que, quelque part, Christ prophétise l'histoire de son Église, de l'Église de Christ, à travers ce passage, à travers ces sept Églises. Mais ces sept Églises, c'est aussi chaque Église de Christ dans le monde. Elles sont comparées à des chandeliers. Il dit, les sept chandeliers, ce sont les sept Églises. Pourquoi? Parce qu'un chandelier, c'est ce qui porte la lumière. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Vous êtes la lumière du monde. Et ensuite, il dit une chose, une ville située sur une montagne peut-elle être cachée? Et vous pouvez imaginer sur une colline, parce que toujours les montagnes dans la Bible, souvent c'est des collines. Vous voyez cette ville accrochée à une colline avec ses lumières la nuit, vous la voyez de très loin. Moi, ça me fait penser toujours à mon village en Corse. C'est que des grandes collines et des vallées partout. Et la nuit, vous ne voyez que du noir, évidemment, mais vous avez ces lumières des villages. Ah, il y a un village là, ah, il y a un village là, ah, on dirait même que ça se confond avec les étoiles parfois. Et ils éclairent la nuit. Et quelque part, cette ville sur la montagne, c'est comme une église locale. Le fait qu'on soit plusieurs lumières ensemble hein, fait qu'on brille plus. Un chrétien tout seul chez lui, il ne brille pas beaucoup. Mais une église, ça brille fort. Même physiquement, regardez, là, on a la vitrine, les gens peuvent voir à l'extérieur, ils voient qu'il y a de la lumière, ils voient qu'il y a des gens qui sont là, des gens qui viennent pour adorer le Seigneur. Notre église est un chandelier dans la rue André-Gide, et j'espère plus loin. Mais une église qui n'est pas en bonne santé spirituelle ne brille plus. Et même Christ dit qu'il peut retirer le chandelier. Hein. C'est-à-dire qu'il retire son témoignage, dit « tu n'es plus mon église ». Et l'église de Laodicée, la dernière, nous verrons plus tard, qu'est-ce qui est dit au début ? Christ dit « je me tiens à la porte et je frappe ». Donc il est à la porte de l'église et il dit « laissez-moi rentrer ». C'est grave quand même pour une église. Et il y a des églises, il y a eu des églises, il y en a toujours encore, qui se réunissent au nom de Dieu, mais Dieu n'est pas là. Voilà, elles sont mortes spirituellement. Alors, il dit, il y a aussi sept étoiles dans sa main, et ces sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, verset 20, sont les sept anges des sept églises. Alors là, notre curiosité humaine est piquée, mais ne vous laissez pas emporter par la curiosité, c'est un détail qui ne va pas changer grand-chose au reste. Mais, puisque nous sommes curieux, j'ai étudié la question. Qui sont ces sept anges ? Alors, certains disent que ce sont les anges gardiens. Chaque église a un ange gardien. Alors, ça repose sur strictement rien. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que les églises ont chacune un ange gardien. Même c'est dangereux, je trouve, comme idée, parce qu'on s'intéresse plus aux anges qu'à Christ. La Bible est claire, par contre, partout. Le chef de l'église, c'est qui ? C'est Christ. Et qu'est-ce qu'il a donné à l'église pour la gouverner des hommes, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, hein, des évangélistes. Il n'y a pas d'ange là. C'est dans Éphésiens 4 hein, qu'il dit « Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs. » Donc, il n'est pas question d'ange dans l'Église. Par contre, la Bible dit que les anges regardent dans l'Église, à travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que les anges sont ébahis quand ils voient comment Dieu nous traite. Le fait qu'on soit racheté, qu'on soit rempli du Saint-Esprit de Dieu, le fait qu'on ait bénéficié de l'amour de Dieu, le fait qu'on soit ses enfants, des co-héritiers, les anges, ils sont ébahis. Ils disent, mais c'est incroyable, Seigneur, ton amour pour ces hommes qui, franchement, ne le méritent pas, nous le savons. Les anges saints, eux, n'ont jamais péché. Jamais, 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 jamais. Ils sont saints. Il y a les anges déchus qui sont les démons, hein, devenus les démons qui ont suivi le diable. Mais les anges saints n'ont jamais péché. Et pour eux, péché, ils ne connaissent pas. Mais quand ils voient les hommes pécheurs qui sont transformés et qui se mettent à louer Dieu avec eux, parce qu'eux, ils louent Dieu continuellement, ils sont ébahis. Mais à part ça, pourquoi il y a un ange avec chaque église ? Mais ange, ça veut dire, en grec, messager. Un ange, c'est un messager de Dieu. Un envoyé, un messager. Donc, ça peut être un messager céleste, un ange céleste, avec tel que les anges sont appelés dans la Bible, mais ça peut être aussi un homme. Dans le cas de Jean-Baptiste, en Matthieu 11-10, pardon, il est appelé un messager, un ange. C'est le mot ange, là, pour Jean-Baptiste. Donc, un homme peut aussi être un ange. Donc, ce n'est pas forcément des anges avec des ailes, là, qui reçoivent ces lettres. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il écrirait une lettre à des anges. Ça me paraît curieux. Que Jean écrive une lettre à des anges. Il dit « écris aux anges ». Je pense que ce sont des messagers pour chaque église et que chaque église va avoir un messager qui va reprendre la lettre et qui va l'amener à bon port. Parce qu'il n'y avait pas la poste. Il n'y avait pas FedEx, UPS et toutes ces compagnies. C'était des messagers qui portaient les plis. Et nous n'imaginons pas à quel point c'était dangereux. les routes étaient d'un danger terrible. Entre les brigands, les trous, les maladies, les attaques, les guerres, il y avait tout. Arriver à bon port, c'était déjà une grâce merveilleuse. Et donc, Christ va confier à ses messagers pour chaque église une lettre. C'est ta lettre et tu la portes à l'église. C'est ta mission, tu ne penses pas à autre chose. C'est ta mission, tu vas jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des pasteurs. Parce qu'il y a des commentateurs de la Bible qui ont dit « mais les anges, en fait, ça désigne les pasteurs ». Nulle part dans la Bible, les pasteurs sont appelés des anges. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'en sont pas. Mais ça ne correspond pas. C'est vraiment un messager, un ange. Et donc, peut-être qu'il y avait des pasteurs corrompus. On voit que certaines de ces églises sont corrompues par des fausses doctrines et que même peut-être les pasteurs étaient corrompus. Donc, il fallait un messager neutre, un messager fidèle au Seigneur. Et peut-être que Christ avait choisi ces messagers ou que Jean les avait choisis, je ne sais pas, parce que Jean connaissait bien ces églises. Jean exerçait son ministère dans cette région d'Asie mineure. Quoi qu'il en soit, les lettres sont écrites à ces anges qui vont les amener aux églises. Ces lettres contiennent des remarques de Jésus-Christ sur chaque église, des remarques précises qui correspondent à la situation de chaque église. Et en fait, d'une certaine façon, Christ regarde les églises locales et il les juge. Il les juge pas dans le sens qu'il les condamne, mais il les regarde avec son regard saint et juste. Et il dit « ça, ça va bien, ça, ça va pas bien. » Et ça, il faut le corriger. Nous, on a l'habitude que ce soit les hommes qui fassent ça, que ce soit, par exemple, le rôle du pasteur ou qui disent « bon, les frères et sœurs, maintenant, il faut... » Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi le rôle des pasteurs, des prédicateurs de la parole. Mais en fait, c'est Christ qui veut que chaque église soit pure, qui veut que chaque assemblée qui se réunit en son nom soit digne de son nom. Parce qu'on se réunit au nom de Jésus-Christ. Nous nous appelons chrétiens. Chrétien, ça vient de Christ. Nous prions, nous disons Dieu, nous disons Jésus, nous prononçons son nom. Mais si nous sommes corrompus, soit par une vie immorale, soit par une fausse doctrine, nous ne glorifions pas vraiment ce nom. Ce nom n'est pas bien porté. Et c'est l'apôtre Pierre qui avait écrit qu'à la fin, je vais vous lire, 1 Pierre 4, 17, « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc ici, ce qu'on voit dans ce verset de Pierre, c'est que Dieu va commencer par juger son peuple, son Église, et ensuite il va juger le monde. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vous commencez par les sept lettres aux sept églises, et après, il n'y a plus d'église. Nous croyons, personnellement, que l'église est enlevée, sera enlevée, comme c'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, que les chrétiens, pas l'église en tant que bâtiment, évidemment, les chrétiens seront enlevés à la rencontre, ce sera le jour de la résurrection des corps, et nous serons enlevés, si nous sommes vivants ce jour-là. Et si nous sommes morts, nous allons ressusciter et être enlevés aussi. Et c'est pour ça qu'après le chapitre 4, il n'y a plus d'église. Il y a les saints, il y a des croyants, mais il n'y a plus l'église. Parce que à partir du chapitre 4, Dieu juge le monde. Et là, vous avez tous les fléaux du livre de l'Apocalypse qui sont terrifiants. Et ça ne dure que 3 ans et demi, en fait. Mais c'est 3 ans et demi insupportables. Les gens vont crier de douleur par les fléaux qui vont tomber parce que c'est les jugements qu'ils ont appelé de leur vœu quelque part. Ils ont demandé, ils n'ont pas cherché Dieu, ils ne se sont pas repentis. Donc c'est le jour du jugement, la Bible appelle ça le jour de la colère. Malheur à celui qui vit ce jour-là. Mais Dieu commence par juger d'abord son peuple, comme il l'a fait à chaque fois dans l'histoire d'Israël par exemple. Il juge d'abord son peuple et après les nations. On trouve dans chaque lettre là, et ce sera la fin de mon introduction, le même modèle. Par exemple, si vous prenez avec moi le chapitre 2, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc il dit à qui il s'adresse. On appelle ça les récipiendaires en français. Si vous prenez la deuxième église, c'est verset 8 du chapitre 2. écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Donc, chaque fois, il commence comme ça. Écrit à l'ange de l'église de... Donc, on sait qui reçoit la lettre. Et ensuite, deuxième point, et il y a 7 points comme par hasard, hein, dans chaque lettre. Deuxième point, il dit qui écrit cette lettre ou qui l'envoie. Ben, c'est chaque fois, c'est Christ. Celui qui tient, chapitre 2, verset 1, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Qui est-ce qui tient les 7 étoiles selon la vision ? C'est Christ. Et en fait, il va reprendre chaque point de la vision, en fait, dans chaque lettre. Donc, les récipiendaires, l'auteur de la lettre, même si c'est Jean qui écrit, c'est quand même Christ qui est l'auteur. Ensuite, les louanges. De deux, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Donc, quand il y a une louange à faire, Christ loue l'Église en question. Ensuite, les reproches. Mais ce que j'ai contre toi. Verset 4. Les louanges, les reproches. Et ensuite, il y a l'avertissement. Attention, si vous continuez comme ça, je vais faire ça et ça. Hein? Notamment, il dit, je vais retirer votre chandelier. Ou je vais envoyer un jugement. Ou je vais faire ci ou ça. Donc, l'avertissement du Seigneur. Ensuite, il termine toujours avec une exhortation à écouter, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours exhortation à bien écouter ce que Christ dit. Et on se dit, mais quand même, on n'est pas sourd. Ben si, on est sourd. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas ? Et Christ est obligé de répéter chaque fois, écoute ce que je te dis, écoute bien, mais écoute avec une oreille qui obéit, pas avec une oreille qui dit, oui, d'accord, et ça sort de l'autre côté. C'est ça, bien écouter. Et puis, 7e point à chaque fois, il fait une promesse au vainqueur. Par exemple, pour Éphèse, verset 7, chapitre 2, que celui qui a des oreilles, donc entende, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Donc il y a une promesse pour celui qui vaincra. On va voir ce que c'est. Donc prenons la première église ce soir. Ça va aller assez vite, mais il y a des choses profondes et très, très utiles pour nous. Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il commence par une louange, et c'est touchant parce que Dieu est tellement saint qu'on pourrait croire qu'il ne voit jamais rien de bon chez nous. C'est vrai, il est 3 fois saint. Même nous, quand on fait les plus grands efforts, on est tellement loin de la sainteté, de la perfection, que ça, c'est décourageant un petit peu. Mais là, le Seigneur a dit, mais moi je connais, je sais ce que tu fais, je sais ce qui est bon chez toi. Et il le dit à une église, mais je pense qu'il peut le dire aussi aux individus. Et la Bible dit que Dieu n'oublie pas le travail que les frères et sœurs font pour son œuvre, hein, pour sa maison. Et Dieu tient compte aussi des chrétiens qui sont persécutés. Dieu le voit. Et même si Dieu ne les sauve pas forcément de la mort ou de la persécution, Dieu leur réserve une récompense particulière, hein, à ceux qui souffrent pour son nom. Et le Seigneur veut nous encourager. Et si vous êtes au service du Seigneur, si vous êtes dans une église locale, vous êtes engagé, surtout sachez que Christ voit le bien que vous faites. Il voit votre consécration. Peut-être que les pasteurs ou peut-être que les autres chrétiens ne le voient pas ou ne vous disent pas merci toujours ou ne vous félicitent pas quand il faudrait. Il y a des personnes qui voient toujours le mauvais côté. Bon, c'est bien ce que tu as fait, mais quand même, mais, oui, mais moi j'aimerais que tu enlèves les mecs, que tu me dises que c'était bien. Voilà. On peut toujours faire mieux, évidemment. Mais Christ, il dit, Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. C'est bien. Tu travailles, tu es une église active et tu es une église persévérante. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle a cette église? Je vous fais travailler un peu, justement. Voilà, c'est-à-dire c'est quoi comme qualité ça? Une certaine droiture, oui, tout à fait. Et puis aussi, ils haïssent les œuvres des Nicolaïtes. Discernement, voilà. Droiture, discernement. Donc, ils n'acceptent pas tout n'importe comment. Ils ne laissent pas n'importe quoi se passer dans l'Église. Ils sont sérieux, ils sont droits. Et puis, c'est une Église vivante, on peut dire. Hein. Tes œuvres, ton travail, ta persévérance, non seulement ils ont des œuvres, mais en plus, ils travaillent pour les avoir et en plus, ils persévèrent dans leurs œuvres. Franchement, bravo, c'est une église en action. Il y a des églises qui dorment. Il y a des églises où il ne se passe rien. On vient le dimanche, le pasteur il a préparé son message samedi soir à 8h, il a travaillé 15 minutes. Il fait un petit message et tout le monde est là le dimanche, on se congratule et on s'en va. Et ça y est, c'était l'église. Mais ce n'est pas une église, ça. Dans une église, il y a des œuvres, il y a du travail. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit, il y a des chrétiens qui font des choses pour le Seigneur, qui s'entraident, qui apportent l'évangile, qui s'occupent de la maison du Seigneur. Voilà, ça c'est les œuvres et le travail. Et c'était la qualité de cette église, elle était active. Il y avait du service, du discernement, il y avait même du courage, parce qu'ils ont dénoncé les faux apôtres. Il y avait déjà des faux apôtres, et c'était autant des vrais apôtres, c'est toujours là qu'il y a les faux, qui se faisait passer, hein. Paul en parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, et il y a même des faux apôtres qui venaient voir l'église de Corinthe et qui disaient « L'apôtre Paul, c'est un faux apôtre, justement. C'est lui le faux. Et il vient pour l'argent. » Alors, vous savez, c'est terrible les calomnies comme ça, parce qu'après, vous avez beau vous défendre, il y a toujours le doute, c'est la suspicion. « Ah ouais, Paul, il travaille pour l'argent, en fait. Regarde, à chaque fois qu'il vient, il demande une collecte. Ouais, mais qui dit que c'est pas pour lui, la collecte ?» Et quasiment toute la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, c'est pour défendre son apostolat. Pas se défendre lui, parce qu'il dit, moi, Dieu, c'est Dieu qui me juge. Je sais, ma conscience est pure. Mais il veut défendre son... Il est apôtre de Christ, il dit, je ne veux pas qu'on méprise les apôtres de Christ. Et il dit, voilà, d'accord, je vous escroque, d'accord, je vous vole, mais regardez, j'ai travaillé de mes mains, il fabriquait des tentes pour apporter l'évangile gratuitement. Et il dit, la collecte, nous l'avons porté à Jérusalem, hein, et ce n'est pas moi qui l'ai porté. C'est quelqu'un qui l'a porté. Et il dit, je n'ai même pas baptisé la plupart de vous parce que je ne suis pas venu pour baptiser. Moi, je suis venu pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Parce que baptiser, ça vous donne une sorte d'autorité un peu. Hein. Et il dit, ces faux apôtres, hein, ce sont des ouvriers trompeurs. C'est eux, ils cherchent leur propre gloire. Il dit, nous les vrais apôtres, nous sommes des balayeurs du monde. Hein. C'est dans 2 Corinthiens qu'il dit ça, nous sommes les balayeurs. Et c'est vrai que les vrais apôtres, franchement, ils n'étaient pas très honorés déjà par les Romains, mais même dans les églises, ils n'étaient pas honorés des fois. Mais les Éphésiens, ils avaient ce discernement et ce courage de dire, non, vous êtes des faux apôtres, c'est ça les vrais apôtres. Et puis, ils haïssaient les Nicolaïtes. Alors, on ne sait pas qui étaient ces Nicolaïtes. Les historiens ont fait des recherches. Les pères de l'Église parlent de Nicolaïtes, mais apparemment, ils font une confusion avec un groupe gnostique qui est venu plus tard. Mais en fait, c'est le nom qui va nous intéresser. En grec, c'est du grec, hein, Nicolaïtes. Ça veut dire les vainqueurs, littéralement, les vainqueurs du peuple. Hein. Nice, ça veut dire victoire, hein, la ville de Nice. Ça vient du grec. Et Laos, c'est le peuple. Donc, vainqueur du peuple. Et ça pourrait aussi vouloir dire destructeur, parce que dans vainqueur, il y a aussi l'idée d'oppresseur, hein, également. Et, bon, est-ce que ça nous aide? Pas vraiment, sauf quand on voit plus tard avec une autre église, il parle de la doctrine de Balaam. Balaam, c'est un personnage de l'Ancien Testament, un faux prophète. Mais Balaam, ça veut dire à peu près la même chose que Nicolaïte. Hein? Ça veut dire celui qui domine le peuple ou qui est seigneur sur le peuple. Baal, ça veut dire seigneur hein, en araméen, en hébreu. Et l'âme, c'est aussi le peuple en hébreu. Donc, seigneur sur le peuple, dominateur sur le peuple. Et Nicolaïte et Balaam sont un peu la même idée. C'est des gens qui dominent sur les autres. Alors, ça pourrait, et là, être un groupe de chrétiens élitistes qui essayaient de faire une hiérarchie qui domine sur les autres. On sait que dans le début de l'Église, dans les tout débuts, qui est-ce qui s'occupait de l'Église? Il y avait des évêques et des diacres. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Je m'adresse aux évêques et aux diacres ». Donc il y avait plusieurs pasteurs en général, il n'y avait pas qu'un seul pasteur par Église, qu'on appelle aussi des anciens. Et il y avait des diacres, et c'était eux qui géraient l'Église, et chaque chrétien avait sa part aussi, et Jésus avait dit « Nous sommes tous frères ». Il y avait égalité. D'ailleurs, les diacres étaient élus par l'Assemblée, et les pasteurs aussi étaient reconnus par l'Assemblée, et les missionnaires étaient envoyés par l'Assemblée. Donc, c'était pas démocratique de façon absolue, mais c'était quand même les chrétiens qui nommaient leurs pasteurs, leurs évêques, qui envoyaient leurs missionnaires et leurs diacres, etc. Mais avec le développement des églises, et notamment dans la région de Rome, n'est-ce pas, et aussi dans les grandes capitales comme Constantinople, certains pasteurs évêques sont devenus des super évêques et ils se sont pris pour des super apôtres. Et ils ont commencé à donner des ordres aux autres, à écrire des lettres. Non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Avant, c'était des exhortations, mais eux, ils se sont pris vraiment pour des apôtres. Je vous ordonne de... Et ça a créé des remous dans les églises hein, qui ont dit « Mais pour qui tu te prends, toi, pour nous dire ce qu'on doit faire dans notre assemblée? Reste dans la tienne et nous, on s'occupe de la nôtre. » Et il y a des témoignages hein, de ces conflits qui a eu lieu. Peut-être que ces Nicolaïtes, c'était une sorte de clique, je ne sais pas, qui voulait régner sur les églises, qui voulait imposer un faux apostolat. Et l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse, les ont discernés et les ont rejetés. Balaam, c'est aussi, il est connu pour avoir corrompu le peuple d'Israël en les faisant aller vers des femmes étrangères. Comme il n'a pas pu les corrompre en les maudissant, parce que Dieu l'a interdit de maudire, il s'est dit, je vais faire plus subtilement, comme le diable sait le faire, je vais les encourager à aller vers des femmes non-juives qui ont des idoles dans leur vie. Et en allant avec ces femmes, ils vont corrompre leur foi et ils vont s'éloigner de l'Éternel et j'aurai gagné la bataille. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il a gagné une partie. Hein. Il a réussi à corrompre une partie d'Israël. Et ça aussi, ça peut se trouver dans les églises. C'est ce qu'on appelle l'esprit mondain. L'idée de ressembler au monde. De dire, il faut que la personne qui rentre dans l'église, elle se sente à l'aise comme dans le monde. Il y a des églises qui ressemblent à des boîtes de nuit. Excusez-moi de le dire, mais c'est des boîtes de nuit. Vous avez des lampes, des éclairages, vous avez une scène. Vous avez des gens qui dansent et on vous dit c'est une église. D'accord, moi je pensais que c'était une boîte de nuit, mais maintenant que vous me le dites, effectivement. Et là c'est l'extrême, mais il y en a de plus en plus comme ça. Hein, où le but c'est que la personne ne soit pas trop touchée par la différence. Mais au contraire, un chrétien il est différent, il n'est pas comme le monde. Jésus a dit vous n'êtes plus de ce monde. Hein. Alors on ne doit pas non plus être un frigo, hein, où quand on rentre, il doit y avoir la chaleur de l'amour de Dieu. Mais ça doit être dans le respect du Seigneur, dans la sainteté, la solennité, la pureté, la douceur, toutes ces qualités qui viennent de l'amour de Dieu. Quoi qu'il en soit, cette église avait des bons côtés, mais elle avait une faute, un reproche qui lui est fait. Et c'est un reproche un peu étonnant. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu... Tu as abandonné, c'est plus tu as perdu, c'est tu as abandonné ton premier amour. Alors, ceux qui parmi nous ont rencontré le Seigneur récemment, ils connaissent ce premier amour. C'est quand on vient de découvrir le salut, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quoi? C'est que je peux être réconcilié avec le Créateur, avec Dieu. Je peux connaître Dieu, il peut pardonner toutes mes fautes, me donner une conscience pure comme la neige. Et je peux avoir l'amour de Dieu qui coule dans ma vie et avoir sa présence, sa protection. Mais quand vous découvrez ça, mais vous faites des bons. Et vous voulez toujours plus. Vous allez à toutes les réunions, vous lisez la Bible, vous dévorez même la Bible. Hein. Vous écoutez des chants chrétiens, vous louez le Seigneur, même si vous chantez faux, on s'en fiche. On y va à fond. Et puis, qu'est-ce qui se passe, comme des fois dans l'amour aussi, dans certains couples hein. On se refroidit, on s'endort petit à petit. Et le premier amour, on le laisse tomber. On dit, oui, ça c'est pour les jeunes. Moi, je suis plus jeune, maintenant j'ai 15 ans de vie chrétienne, c'est fini pour moi. Maintenant, moi, je suis un chrétien mature, un chrétien solide, un chrétien sérieux. Mais Jésus fait le reproche à tous les chrétiens de l'Église, là. Tu as abandonné ton premier amour. Abandonner, c'est le mot qu'on utilisait pour répudier sa femme. Hein. Donc, tu l'as viré, tu l'as mis dehors, le premier amour. C'est-à-dire, tu l'as répudié, tu as dit, non, ça, c'est pour les autres. Moi, j'ai une autre forme de foi. Non, on doit toujours avoir le premier amour pour le Seigneur. On doit toujours le garder. Ça ne veut pas dire qu'on doit être hystérique ou je ne sais pas. Ce n'est pas ça le premier amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on a accepté le Seigneur? On a tout donné. On a donné tout notre cœur. On a dit, Seigneur, prends ma vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. On dit, oui, bon, je t'ai donné ça, maintenant, excuse-moi, je vais les reprendre un par un. Et on reprend des pans de notre vie, des péchés qu'on avait laissés au pied de la croix et on va les rechercher. Et on revient à notre ancienne vie. Et ça, c'est ce que Christ reproche à ces chrétiens-là. Ils reviennent en arrière. Ils reviennent dans leurs choses passées. Le Seigneur dit, ton premier amour, c'est quand tu as tout laissé pour me suivre. Rappelez-vous, Matthieu, hein, les autres disciples, Jésus a dit, suis-moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont suivi. Est-ce que vous avez fait ça? Peut-être vous avez fait ça. Mais il ne faut pas revenir en arrière. Et dire, bon, je t'ai suivi un moment, maintenant je vais revenir à la maison. Non, il faut suivre Christ jusqu'à la fin. Et on peut abandonner son premier amour lorsque on veut reprendre des péchés, on ne veut pas se consacrer pleinement à Dieu. Pourtant, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, hein, il est bien écrit que le culte raisonnable, hein, c'est d'offrir son corps à Dieu. C'est ça le culte raisonnable. On doit toujours donner son cœur. Et c'est de ne pas faire la volonté du siècle présent, mais c'est faire la volonté de Dieu qui est parfaite. On doit garder cet amour. Seigneur, c'est ça qui me motive. Et puis, tout ce qu'on doit faire doit être motivé par cet amour de Christ. Quand on abandonne le premier amour, qu'est-ce qui se passe? On commence à se plaindre. On commence à se diviser, à se quereller, à être négligent, à être froid, à prier moins, à lire moins la Bible. Tout disparaît parce qu'on se refroidit. On s'éloigne du Seigneur. Est-ce que vous avez joué à cache-cache avec « tu chauffes et tu refroidis » quand vous étiez petit, hein? Tu chauffes, hop, t'es froid. Eh bien, c'est la même chose avec le Seigneur. Des fois, on se refroidit parce qu'on s'éloigne. Hein? Et plus on est près du Seigneur, plus on a son amour qui coule. Et c'est ce premier amour qui est de plus en plus fort, en fait. On doit aimer le Seigneur de plus en plus. On doit pouvoir dire, aujourd'hui, j'aime le Seigneur plus qu'il y a encore 5 ans. Est-ce qu'on peut le dire? Alors le Seigneur dit, tu as abandonné ton premier amour, mais il donne tout de suite la solution. Et c'est ça que j'aime avec le Seigneur. Dieu ne nous pointe pas du doigt pour dire, tu es mauvais, c'est fini pour toi. Il nous donne toujours le médicament. Le médicament, verset 5. Je vais changer le mot pour avoir 3 R, comme ça c'est plus facile à retenir. Rappelle-toi, repens-toi, reviens. R. Rappelle-toi, repens-toi, reviens. D'abord, souviens-toi, rappelle-toi. Souviens-toi où tu es tombé. Dieu nous ramène toujours au jour où on s'est éloigné. Dans la vie, hein, il y a des chemins, des routes, et puis il y a il y a des intersections et le Saint-Esprit nous dit tourne à droite, donc on tourne, alors, c'est une image, hein, attention, hein. Je tourne à droite, voilà, et puis le Saint-Esprit dit tourne à gauche et là on va tout droit, on continue, non j'ai pas envie d'aller à gauche, j'aime pas aller à gauche, je vais aller tout droit. Et à partir du jour où vous désobéissez au Saint-Esprit, vous commencez à vous éloigner. Des fois il suffit d'un petit écart, hein. Au bout de 10 km vous êtes loin. Et le Seigneur veut nous ramener là où on s'est éloigné, là où on a commencé à désobéir. Et parce que Dieu, quand il traite les symptômes, quand il traite une maladie, il ne traite pas les symptômes, il traite le cœur du problème. Pourquoi est-ce que je suis, je ne sais pas, pourquoi est-ce que je suis tombé dans tel péché? Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Et petit à petit, je me suis refroidi, puis un jour, pouf! Vous entendez des fois tel chrétien connu, tel pasteur même, malheureusement, voilà, il a quitté sa femme, il est parti avec l'organiste, avec la secrétaire, ou je sais pas, enfin, il a tout quitté. Voilà. Vous dites, mais c'est pas possible. Il prêchait, je le voyais, il était là, prédicateur, enfin, ou c'était un chrétien qui était bien, il avait l'air bien, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il était miné de l'intérieur. Il a laissé des péchés rentrer, revenir. Et ce chrétien-là, pour être relevé à nouveau, il faut qu'il revienne là où il est tombé. Pas juste pleurnicher, oh là là, je reflète plus que j'ai. Non, il faut qu'il revienne au fond des choses. Pourquoi tu t'es éloigné de Dieu? Pourquoi tu as laissé ces péchés rentrer? Et on doit tous faire comme ça. La repentance, c'est sérieux, c'est quelque chose de profond. C'est de dire, voilà, qu'est-ce qui me cloche avec Dieu? Pourquoi je n'aime pas Dieu comme il faut? Pourquoi je ne veux pas obéir au Saint-Esprit? Parce que c'est vrai, des fois, le Saint-Esprit nous demande des choses et on dit, oh, non. Non, c'est trop là. Alors, pourquoi c'est trop? Vas-y, explique-toi. Qu'est-ce qui est trop? Pourquoi tu ne veux pas obéir au Saint-Esprit? Ben, je ne sais pas, mais ça me fait peur. C'est trop. Moi, je veux quand même un peu de. Faire ce que je veux, quoi, en même temps. Ah, donc tu veux faire ce que tu veux et ce que Dieu veut. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours compatible. Mais c'est important, Dieu va au fond des choses. Il ne veut pas qu'on soit superficiel. Et la repentance, ce n'est pas superficiel. Il nous ramène là où on est tombé. Et puis, il dit, reviens. Reviens, reviens. Et on doit revenir au Seigneur. C'est lui qui est la réponse, qui est la solution. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas nous. Ce n'est pas des médecins psychologiques ou je ne sais pas. C'est vraiment le Seigneur. C'est à lui qu'il faut revenir quand on s'est éloigné. Et puis, il termine en disant, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui veut vraiment retrouver son premier amour, celui qui veut vraiment suivre le Seigneur, lui, il va entendre ce message. Il y a des gens, ils assistent à des prédications, ils écoutent des messages, et il ne se passe rien dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas les oreilles pour entendre. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. Même l'évangile est un message où il faut obéir. L'évangile dit, Christ est mort pour toi, il est venu te sauver. Veux-tu croire en lui? Veux-tu te repentir, te tourner vers lui? Si on dit, ah non, bien l'évangile ne peut pas nous sauver de force. Hein. L'évangile ne nous sauvera pas. Celui qui dit non, Dieu va le laisser. Voilà, Dieu va revenir à l'attaque certainement après, mais il nous laisse notre liberté de dire non. Mais celui qui cherche, qui dit « moi je veux être sauvé, je veux trouver la réponse à ma vie, le sens à la vie », quand il va entendre l'évangile, il va ouvrir son cœur. C'est lui il a des oreilles pour entendre. Celui qui vaincra, et là il parle aux chrétiens, attention, « je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». Et chaque fois, il est question de la fin des temps, de la fin du monde. Par exemple, pour l'église suivante, c'est « celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la seconde mort ». Et il prend des choses qu'on va retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc où sera écrit son nom nouveau. Il parle en fait de l'état éternel. Celui qui vaincra, il va accéder à l'état éternel, au paradis de Dieu, à la présence éternelle de Dieu. Est-ce que je suis un chrétien qui est vainqueur? Est-ce que j'obéis au Seigneur? Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je suis encore dans le péché, dans la perdition, dans le monde? Ou est-ce que, vraiment, je marche avec Dieu? Et on ne doit pas être un chrétien perdant, on doit être un chrétien vainqueur, un chrétien qui voit les victoires de Dieu dans sa vie. La première victoire, c'est évidemment le salut, mais il y a les autres victoires, lorsqu'on triomphe du péché, du mal. Et là, le problème, c'était le manque d'amour pour Dieu, le premier amour qui était parti, la joie du salut. Alors si c'est notre cas ce soir, eh bien repentons-nous, revenons au Seigneur, écoutons sa voix et soyons des chrétiens vainqueurs, pas des chrétiens abattus, des faux chrétiens parfois, mais soyons vrais. On va terminer par un mot de prière et puis on chantera.